merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la voie.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission À votre avis, et qui abattu avec vous pour vous accompagner aux manettes de la réalisation Firmin Max Koyaweda. Ce soir, nous nous penchons sur la situation au Mali. La junte qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta affirme qu'elle va mettre en place un président de transition qui sera un civil ou un militaire selon son porte-parole, le colonel-major Ismaël Ouagé. Une transition qui sera la plus courte possible selon lui. Quelles sont les solutions pour maintenir la paix au Mali? Ce coup d'État peut-il avoir des retentissements dans d'autres pays africains? Quel rôle va jouer la communauté internationale dans cette transition? Autant de questions auxquelles nous allons débattre ce soir, et un seul numéro pour participer, le 001 202 205 26 33, je répète, 001 202 205 26 33. On démarre à Bamako, la capitale malienne, avec Monsieur Koulibaly.
Concernant la situation au Mali, moi je pense que c'est un peu regrettable. Les choses étaient devenues difficiles à vivre compte tenu de la dégradation de la situation sociopolitique, des conditions de vie des citoyens et aussi du fonctionnement même de l'État au haut niveau. Ce coup d'État nous fait reculer de beaucoup d'années, mais ça nous permettra de jeter de nouvelles bases, de nouveaux jalons pour que nous puissions bâtir un nouveau Mali sans corruption, un nouveau Mali sans injustice, un nouveau Mali sans népotisme, un nouveau Mali qui va nous permettre d'avancer. Parce que chaque fois qu'on a essayé d'avancer, on a été buté à des problèmes. Et nous osons espérer que les nouvelles autorités militaires qui ont promis de remettre le pouvoir aux civils puissent le faire le plus rapidement possible et que des élections crédibles soient organisées et que nous retrouvons des nouvelles autorités crédibles, sincères, justes pour la cause noble de tous les Maliens, pour que le Mali retrouve sa paix et sa quiétude d'antan.
Merci Monsieur Koulibaly. La paix, la quiétude, des sentiments recherchés également par la diaspora malienne. Je me suis rendue dans le quartier de la Goutte d'Or, plus connu sous le nom de Château Rouge à Paris, pour recueillir quelques réactions. Écoutez.
La situation du Mali, alors c'est pas un truc compliqué. C'est le président du Mali, Ibeka. Alors, il a pris le pouvoir avec sa famille, pour lui seulement. Et puis, il a oublié des populations maliens. Et puis, il a oublié des militaires maliens. Et il a oublié tout le monde. Au Mali, les gens vivent que... Les gens survivent au Mali. Les gens souffrent au Mali et il n'y a rien qui va au Mali. Donc, on a besoin, franchement, des changements au Mali actuellement. Et les militaires, ce qu'ils ont fait, moi, je suis d'accord avec des militaires, en fait. C'est pourquoi, soit quelques... Si ce n'était pas des militaires... Ce sera quelqu'un d'autre. Donc c'était mieux que ce soit des militaires que les populations. Vous voyez? Donc c'est franchement vraiment bien. C'est vraiment bien. On était vraiment fiers, on est contents. On est toujours derrière des militaires.
Je suis déçu, très déçu, parce que j'ai les soucis pour mon pays d'origine. Et depuis l'indépendance, le Mali n'a jamais laissé un chef d'État fini démocratiquement son travail. Le Mali a toujours des coups d'État et des coups d'État. Et les coups d'État nous amènent à rien. Ça nous amène toujours que dans les trous. Les peuples souffrent. Et les religieux qui sont là, qui disent que le pouvoir n'a qu'à partir, le pouvoir n'a qu'à partir. Qu'est-ce que est la religion et les problèmes politiques? Ça n'a pas de sens. Ceux qui ont été déçus avec le président Keïta sont mobilisés derrière les religieux pour aller mettre le pays à genoux. 50 ans, qui a terminé son pouvoir au Mali? Personne. Et ceux qui viennent là, ils vont voler, remplir leurs poches. Et après, ils vont dire que, ouais, on était venus démocratiquement, on va faire tant, on va faire tant. Ils font rien. Et les Maliens, ils sont à l'extérieur, partout. C'est pas parce qu'il n'y a pas de ressources suffisantes pour les Maliens. Il y en a, mais mal gouvernance. Et les militaires, avant que les militaires, ils vont dire qu'ils vont prendre le pouvoir, ils n'ont qu'à aller au front. Ils savent que les 70 à 80% des territoires du Mali est occupé par les bandits armés et les trafiquants de drogue. Et ils savent faire le coup d'État. Pourquoi ils n'ont pas allé au front? Quand un pays est en guerre, la place d'un militaire, ça se trouve au front. Et ce n'est pas dans les camps militaires ou ce n'est pas dans les bureaux climatisés. Donc je suis déçu, très déçu.
Et je ne suis pas le seul. Combien de personnes? Le Mali a 20 millions d'habitants. Si, par exemple, tu as mobilisé 1 million d'habitants et que l'habitant est 20 millions, est-ce que c'est le peuple qui est sorti pour dire le président n'a qu'à partir?
On retourne au Mali avec un auditeur de Cathy. Bonsoir. Que pensez-vous des avis de vos compatriotes à Paris?
Moi, je m'appelle Oumar Koulibaly. Je réside à Kati, à 15 km de Bamako, non loin de la garnison dans laquelle le président Ibeka est gardé. Donc, par rapport aux deux intervenants, je donne parfaitement raison au premier. Il dit qu'il y avait un mur qui s'était construit entre Ibeka et le reste du peuple, c'est-à-dire qu'il les ignorait, il ignorait les écrits venant du tréfonds même du cœur du peuple. Donc, il y avait aussi le fait que son entourage immédiat s'était adonné à des comportements très malsains, très préjudiciables pour le bon fonctionnement d'un État normal. Bon, pour les seconds, je suis beaucoup plus d'accord avec lui aussi parce que, franchement, quand on voit le rythme, la fréquence des coups d'État au Mali maintenant, ça fait chaque 7 ans un coup d'État. On risque d'être placé sur la liste des États voyous, sur la liste des États instables. Et franchement, aujourd'hui, si on a quelque chose à faire, c'est d'écarter les hommes religieux de la gestion de l'affaire politique. Parce que dans un pays où on essaie de lutter contre le djihadisme, contre l'intégrisme, si ce sont des chefs religieux qui tirent les ficelles du jeu politique, c'est extrêmement compliqué. Imaginez-vous, même le président Jonathan, médiateur de la CEDAO, a été obligé de se rendre à Nioro. Les hommes politiques sont obligés de s'aligner derrière l'imam Mahmoud Diko pour pouvoir mobiliser les gens. Donc franchement, au rythme où on est en train d'aller, on risque soit de se retrouver dans un état fondamentaliste ou de voir disparaître le pays, on ne le souhaite pas. Donc que les hommes politiques prennent les responsabilités, se démarquent des religieux pour que ça soit à chacun son rôle. Les militaires aussi, ils ont autre chose à faire dans le pays, notamment la libération du Nord, le combat contre le djihadisme. Donc, si chacun joue sa partition et ils vont s'occuper de la sécurisation du pays et les hommes politiques vont gérer les affaires politiques. Que Dieu nous en garde.
À votre avis sur VOA Afrique.
Allons à présent sur la page Facebook VOA Afrique, prendre les différents avis. Ibrahim Ould Mohamed Ali de Tombouctou au Mali dit ceci. Les Maliens ont choisi entre le mal et le pire, ils ont préféré le mal. Certes, la démission telle que les compatriotes l'ont voulu n'est pas inscrite dans la Constitution, mais elle demeure un réflexe démocratique. Quand on échoue, il faut savoir s'arrêter et passer le témoin. Oumar Grandbouté à Abidjan, Côte d'Ivoire. Un coup d'État n'est jamais salutaire. J'aurais aimé voir les FAMA triompher face aux terroristes dans le Nord plutôt que dans un coup d'État face à un président qui se cherche. Abdoulaye Sadou Touré à Bamako, au Mali. Il ne faut pas confondre un soulèvement populaire à un coup d'État car depuis 3 mois le peuple malien a dit non. Aboubakar Zongo à Bobo-Dioulasso. La population malienne ne sait pas ce qu'elle veut. Je trouve cela honteux pour l'Afrique. À chaque fois, c'est eux qui chassent leur président élu démocratiquement. Si quelqu'un d'autre prend le pouvoir, ça sera encore la même chose. Nous allons à présent prendre l'avis d'un auditeur qui se trouve en République démocratique du Congo.
Moi, c'est Antoine Lumbala. Lubumbashi en République démocratique du Congo. Bon, j'estime pour ma part que les coups d'État à travers le monde, en Afrique, particulièrement au Mali, n'ont jamais contribué quoi, au développement d'un pays. Le mieux peut-être à faire sera ce que le Malien puisse vraiment choisir les bons dirigeants pour présider à la destinée de leur pays en trouvant des solutions aux problèmes auxquels ils sont vraiment confrontés. Bon, d'une part aussi, ça peut toutefois porter un petit changement dans la mesure où le Comité national pour les salut du peuple peut mettre sur pied de nouvelles stratégies pour permettre une courte transition qui aboutira aux nouvelles élections pour élire les nouveaux dirigeants, changer la donne à la tête du Mali. Le problème de l'Afrique est toujours celui-là. Peut-être il y a certains dirigeants qui sont imposés par l'Occident pour leurs intérêts, et plus particulièrement la France. Si vous remarquez bien, dans la plupart des les anciennes colonies françaises, il y a un peu de désordre par rapport aux anciennes colonies anglaises. Bon, le mieux à faire, les vins déjà tirés, il faut les boire. Hein. Il faudrait qu'on songe à autre chose, préparer les élections. Mais en tout état de cause, les coups d'État n'ont jamais été quelque chose de bon pour un pays. Merci.
Merci Antoine. Toujours en RDC, nous allons à présent à Kinshasa avec Alphonse Boaki. Bonsoir Alphonse.
Vous savez, la stabilité politique au Mali ne contente pas tous les Africains. Les coups de force perpétrés contre Ibrahim Boubacar Keïta et les résultats de son entêtement à céder à la voix du peuple qui est sorti dans la rue pour pouvoir réclamer son départ. Je ne concerne pas un coup d'État, mais je suis pour le maintien du Conseil national du Sali du peuple au pouvoir. Mais je demande à ce Conseil national de pouvoir mettre en place une transition civile parce que les militaires sont apolitiques. Et aux civils à pouvoir organiser des élections dans la transparence, en toute liberté, pour que un pouvoir démocratiquement élu puisse prendre la place et conduire le Mali au progrès. Vous savez, les défis que doit relever en priorité les gouvernants à venir, qui seront élus démocratiquement, c'est de pouvoir combattre l'insécurité qui sévit au centre, au nord et puis un peu partout au Mali. Donc c'est ça la priorité. On arrive au pouvoir pour pouvoir donner des solutions aux problèmes qui se posent au pays, pour résoudre les désidérata du peuple, que les népotismes ne puissent pas prendre place. Les coups de force perpétrés au Mali servent d'avertissement aux pays voisins, dont la Côte d'Ivoire et la Guinée, où le président cherche à briguer un troisième mandat alors qu'ils sont bités à une contestation populaire contre cette forfaiture. Déjà, des manifestations ont commencé dans ces deux pays. En Côte d'Ivoire, on a enregistré la mort de 6 personnes qui ont manifesté. À la CEDEAO, je demande d'arrêter des sanctions qui vont peser sur la population. La gente ne va pas en souffrir, ne va pas en pâtir, mais ce sera la population qui va subir le douleur de ces sanctions. D'accepter la situation, le 20 et d'accepter la situation telle qu'elle se présente, comme ça il y a donc un coup d'État qui a été opéré, et puis seulement d'obliger les militaires à installer un pouvoir civil et saisir cette occasion pour installer une gouvernance qui soit favorable pour le bien-être de tous.
Alphonse Boaki, merci. Nous avons également un auditeur originaire de la République démocratique du Congo, Zorobilel Ingeta, à Paris. Bonsoir.
Bonsoir. À propos de la situation qui se passe actuellement au Mali, moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, lorsque les hommes entrés prennent les pouvoirs, cela n'augure pas une horizon paisible. Mais ce qui est arrivé est le fait d'un échec politique durant les 60 dernières années d'après les indépendances des pays africains. Cela montre effectivement que nos politiciens, nos leaders, notre élite africaine en général a perdu la partie, s'il faut le dire comme ça, n'a pas été à la hauteur des enjeux du futur de ces continents. Nous ne pouvons pas concevoir qu'un pays comme le Mali, dans son histoire, puisse enregistrer plus de 4 coups d'État où des militaires arrivent pour remettre le pouvoir aux civils et les civils qui se comportent pire que des militaires et en obligeant les militaires à revenir en plus. Nous voyons la même situation se répéter en Côte d'Ivoire. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Robert Guéhi, avec Henri Cognin-Bédier, avec Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. À la fin de son mandat, de ses mandats, s'il faut dire, Alassane Ouattara avait rempilé tout en modifiant la Constitution alors qu'il a tenu des propos qui donnaient l'espoir à ce qu'il y ait une issue favorable au devenir de cette nation-là. C'est la même situation que nous sommes en train de vivre en Guinée. Pourquoi obliger les gens en treillis à revenir à la charge, reprendre les pouvoirs? Parce que le pouvoir en soi doit rester un outil civil et qui doit être protégé par une armée républicaine. Je pense que le Mali aujourd'hui est dans une situation de facto telle que les militaires ont pris le pouvoir, mais nous appelons à ces putschistes, s'il faut le dire comme ça, de très vite installer une transition politique qui sera dirigée par des civils et des gens qui ont une intégrité de telle manière à ce que l'issue soit favorable à la population malienne, parce que c'est la population malienne qui a manifesté. Ce sont des leaders politiques, civils et religieux, s'il faut le dire, qui ont mobilisé la population dans la rue. Et en Afrique centrale, je pense que la même histoire risque de se reproduire. En voyant ce qui se passe au Congo, à Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso, il y a des risques probables que ça puisse partir en vrille avec une population qui est paupérisée à outrance, une population qui souffre, mais dont les mêmes dirigeants, 30 ans, 20 ans après, restent au pouvoir et qui est en train même de prévoir à ce que le pouvoir passe chez son fils. Je pense que les politiques qui sont dans l'opposition ne vont pas se laisser faire. Les leaders d'opinion vont suivre la cadence et aider ces pouvoirs dictatoriaux à céder la place à la volonté populaire.
Merci Zoro Bidel pour votre avis. À présent, un auditeur à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Conan Félix.
Concernant le cas du Mali, je dirais que c'est une très bonne chose ce qui vient de se passer, la libération du peuple malien. La situation avait atteint un niveau tel que toute la population malienne, tout le peuple malien dans son entièreté s'est uni pour réclamer la démission de ce monsieur-là, de M. Ibeka. Mais comme les politiciens africains ne tiennent pas garde à la population, ne font pas attention à la population, ils ne tiennent pas compte de l'intérêt du peuple, il s'en tenait à sa tête. C'est pourquoi il a préféré aller au bras de fer qu'au consensus, au dialogue, pour résoudre à l'amiable cette crise malienne. Quand je dis que c'est le peuple malien dans son entièreté, c'est parce que la société civile, le monde religieux, les soldats, dans l'ensemble, se sont levés comme seule personne pour dire que c'est le peuple qui donne le pouvoir et le peuple peut l'arracher à n'importe quel moment. Et ce coup-là, c'est comme une balise, c'est comme une limite qu'on fixe aux chefs d'État africains. Ça va leur servir de leçon. Et ils vont s'en dire que si le peuple qui nous a donné le pouvoir, si on ne fait pas son affaire, ce peuple peut le retirer à n'importe quel moment. Merci.
Merci Félix. De Dakar, nous avons Aruna Baldé en ligne.
Moi, je pense que ce qui s'est passé au Mali n'était plus un secret de polichinelle. Certes, on ne connaissait pas la date que ça allait se produire, mais c'était pressenti que Ibeka allait quitter tôt ou tard au pouvoir, parce qu'il n'avait plus de soutien, que ça soit à la population malienne, que ça soit au sein de son parti, même personne ne parlait. Peut-être bon, on était là juste pour une formalité, parce qu'aujourd'hui, on se rappelle depuis 2013, la situation du Mali est devenue dégradante. D'abord, Mali a connu vraiment une situation sécuritaire dégradante sans précédent, et ensuite cela, au-delà de la situation sécuritaire, s'est ajouté d'autres problèmes comme la corruption aujourd'hui qui gangrène au sommet de l'État et la pauvreté. Et je pense que ce sont tous ces facteurs-là aujourd'hui qui ont poussé vraiment à la population malienne de réagir ainsi, de descendre dans la rue à travers le mouvement M5 sous l'égide de l'influent Imam Diko. Alors je pense qu'aujourd'hui c'est un nouveau départ pour le Mali, c'est un nouveau départ pour le Mali, non seulement aussi c'est une alerte pour la sous-région. Je le dis parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'après le Mali, il y a la Côte d'Ivoire qui est à côté et il y a aussi la Guinée-Conakry aujourd'hui. C'est juste un problème de constitution où les présidents, une question de troisième mandat que les populations ou bien que leur peuple n'accepteront sûrement pas. Alors je pense qu'aujourd'hui, Ibeka aurait dû sortir par la grande porte en convoquant à des élections anticipées depuis le début du mouvement populaire du M5. Mais bon, malheureusement, il ne l'a pas fait. Il s'est entêté peut-être par rapport à son entourage. Il a fait dure tête. Et voilà, aujourd'hui, ce qui est arrivé est regrettable. Mais c'est comme ça. Ibeka n'avait plus vraiment... n'avait plus la force de diriger le Mali parce que voilà, on sait qu'il y avait une défiance sécuritaire. Je vous remercie.
À présent, un auditeur au Bénin, Vincent Seounou.
Je donne raison aux potistes qui ont pu répondre aux attentes du peuple parce que ça fait longtemps que le peuple attend ce qui s'est passé. Le peuple demandait seulement le départ simplement du président Ibrahim Boubacar Keïta et aussi la dissolution de son gouvernement, y compris aussi l'Assemblée nationale dont on avait organisé une élection et tout le pays tout entier conteste cette élection. Encore en ce moment, il faut rappeler que le chef de file de l'opposition a été enlevé le jour-là dans une région, dans le pays. Jusqu'à présent, on ne connaît pas ces nouvelles. Alors que le peuple, c'est-à-dire l'État assure la sécurité du peuple. Donc là où la santé d'un individu a été menacée, c'est la santé de tout le monde qui s'est menacée. Je remercie beaucoup les potistes qui ont pu répondre à cette attente. Donc de façon ramassée, il faut comprendre que ce qui s'est passé au Mali n'est pas très loin dans les autres pays, mais quel qu'en soit la puissance de ces dirigeants. Donc il faut comprendre que nous devons, cela est une bonne leçon pour pouvoir répondre aux attentes du peuple. Mais ce que je vais la dire, je vais la dire tout récemment, que on fait tout possible pour laisser le pouvoir aux civils et aussi à bien d'autres personnes pour pouvoir remédier la sanction dont on avait infligé contre, à savoir l'Union européenne, la CEDEAO et la France, les États-Unis et bien d'autres pays de grande puissance et aussi bien d'autres organisations internationales ou bien mondiales. Voilà. Donc, ce qui s'est passé au Mali, vraiment, ça me fait un peu du cœur. Donc, en Afrique de l'Ouest, on avait refusé entre-temps de faire chasser Yahya Jammeh. Mais Yahya Jammeh, après 22 ans au pouvoir. Mais si aujourd'hui, je ne vais pas citer aucun pays, aucun président, si aujourd'hui, le président continue de modifier la constitution pour pouvoir se présenter au pouvoir, bien, le président continue de rester toujours au pouvoir, mais pourquoi on avait chassé Yahya Jammeh? Donc, ce qui s'est passé en Gambie n'est pas différent de ce qui s'est passé dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest.
Merci Vincent. Alors, de nombreuses réactions sur la page Facebook VOA Afrique. Nestor, Sandy, Nema en Guinée. Toutes les nations d'Afrique, particulièrement nos forces de l'ordre, doivent faire respecter la dignité humaine et ainsi respecter les valeurs morales et respecter les règles démocratiques. Alors, l'armée malienne est un modèle et un bon exemple à observer et à suivre. Lamine, Kaba, Conakry, en Guinée, pensez-vous que faire ce coup d'État est la solution ? Loin de là, le président qui sera élu après cette transition sera encore chassé par les Maliens. Le problème du Mali est la présence française, soi-disant maintien de la paix. Quelle paix ? Ce n'est pas pour rien que Kadhafi a été tué par la France. C'était pour conquérir le nord du Mali et exploiter toute cette zone qui regorge de richesses. Ousmane Sofayambour au Sénégal, n'oublions pas la leçon libyenne, faisons très attention. Mohamed Traoré à Abidjan, la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités en dégageant tous les vieux présidents qui refusent de quitter le pouvoir. Alain Moba, Kinshasa en RDC, c'est une leçon à donner à tous nos dirigeants dictateurs africains. Amadi Nyangadou à Ségou au Mali, c'est vraiment dommage que l'opposition malienne, qui se dit démocrate, puisse se réjouir d'un tel coup de force. On va prendre un dernier auditeur qui est donc malien et qui réside à Paris.
Makalou Seiba, malien vivant en France. Je comprends bien la situation au Mali actuellement est très très difficile. Le Mali on peut pas dire qu'il est tombé, le Mali est sous terre. Et depuis 2012, depuis le coup d'état de Amadou Sanogo, les choses ne sont pas améliorées. Et le président Ibeka a resté 7 ans au pouvoir. Pendant 7 ans, on n'a pas de bilan à pouvoir le défendre. Ce n'est pas un souhait pour nous, Maliens, qu'il y ait un coup d'état aujourd'hui au Mali. On a voulu négocier avec le président Ibeka, lui donner un premier ministre de plein pouvoir pour qu'il puisse au moins gérer jusqu'en 2023. Mais on a négocié pendant 3 mois. Il n'y a pas de gouvernement au Mali. Les négociations n'ont jamais abouti. Et enfin, on est tombé sur un coup d'état. Je savais que c'était la finalité. Et on n'est pas heureux, les Maliens, pour un coup d'état. On n'était pas pour un coup d'état. On était quand même pour que le président Ibeka, qui a été élu démocratiquement, finisse son mandat jusqu'en 2023. Mais malheureusement, les négociations n'ont pas pu aboutir. Et finalement, il y a eu un coup d'état.
Monsieur Makalou, merci. Vous êtes notre dernier auditeur. Rappelons qu'hier, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a annoncé l'envoi immédiat d'une délégation à Bamako. Elle réclamait le rétablissement du président Keïta dans ses fonctions. Rappelons également que le porte-parole de la junte réfute le terme de coup d'État. Nous restons très attentifs à l'actualité malienne sur VOA Afrique et je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site www.voafrique. Merci encore à Firmin Max Koyaweda pour la production. Je vous souhaite à présent une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. C'était Ekiabadou avec vous.